Cette semaine à l'émission, l'abbé Robert Gendreau nous livre son témoignage de conversion et l'abbé Thomas Malenfant explore avec nous le rapport entre le théâtre et l'Église. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture, ici Antoine Malenfant. Et en compagnie de mes amis chroniqueurs, amis et même frères, Thomas Malenfant, bonjour.
Salut.
Et Ariane Beauferret, bonjour.
Salut Antoine.
Aujourd'hui, on va parler abondamment de théâtre. C'est le thème de l'émission cette semaine. Vous avez déjà foulé les planches, vous? Thomas, je pense que oui, hein?
Dans l'ancien temps.
dans ton ancienne vie.
En secondaire au cégep, j'ai eu le plaisir de faire partie d'une troupe. C'était une belle expérience.
Tu avais joué quoi, hein?
Le Malade imaginaire, on avait joué Les Beaux dimanches, Montserrat.
Wow.
Ouais.
Des classiques.
Ouais.
Et toi, Ariane, t'as déjà fait du théâtre?
Non, moi j'étais dans la fosse des musiciens. Mais
ah
pas
oui!
Sur scène.
Ah, mais quand même. Donc tu t'es frotté quand même à l'art dramatique,
oui.
Mais d'un autre point de vue.
Tout à fait.
Aujourd'hui, bon, je le disais un peu d'entrée de jeu, on va parler de théâtre, on va parler aussi du rapport entre l'Église et l'État et les planches et le théâtre. Cette relation-là a été à bien des moments dans l'histoire assez conflictuelle, assez compliquée. Ariane, tu nous as fait une recension un peu de ces deux éléments-là qui n'ont pas fait bon ménage. Là.
Oui, c'est une relation assez conflictuelle au travers du temps. Il faut se remettre dans l'idée de l'Église des premiers siècles. On est à cette époque, c'est le théâtre gréco-romain qui domine, avec aussi les jeux de l'amphithéâtre, les jeux du cirque.
Mm-hmm.
Donc c'est beaucoup d'obscénité sur scène, de cruauté, de mise à mort, des rituels aussi païens. Le théâtre avait aussi un rôle parfois spirituel en représentant des cultes, par exemple à Déméter, la déesse de la fertilité, ce genre de choses. Donc, dans les premiers siècles, les pères de l'Église ont énormément condamné le théâtre. Ils l'ont condamné pour plusieurs raisons. Ils condamnaient les acteurs déjà en soi parce que l'acteur, en fait, comme il représentait quelqu'un, parfois il était même masqué également, il n'était plus lui-même. Donc, en prenant la place d'un autre, en n'étant plus ce que Dieu avait voulu qu'il soit, c'était considéré comme un acte diabolique en soi. Et même, il y a même des penseurs qui allaient plus loin en disant que c'était carrément des possessions du démon, le fait de jouer la comédie. Et il y avait également donc, ce rôle magique, il y a aussi l'idée que ce qui était présenté était faux. Ça ne représentait pas des histoires qui étaient vraies. Et ça avait un rôle aussi de pur divertissement, de plaisir. Ça pouvait avoir aussi comme effet de détourner les bonnes mœurs. Donc, vraiment, les premiers pères de l'Église l'ont condamné jusqu'à un point tel que le Concile d'Elvire en 305 invitait tous les comédiens à renoncer à leur profession ou alors à être excommuniés.
OK, ça, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Hein.
Non, puis ce décret d'excommunication, c'est resté là jusqu'au 18e siècle.
Ah, quand même!
Oui!
c'est un décret qui avait la coenza.
Oui.
Mais est-ce que ça a évolué? Certainement, j'imagine, là, ça n'en est pas resté là. Bon, tu parlais des pères de l'Église qui ont condamné Tertullien, Augustin, qui ont dit des choses très dures.
Oui, sur les actrices également et les acteurs qui étaient comparés à des prostituées qui s'offraient au regard, une certaine exaltation aussi des femmes. Tertullien avait ce mot très fort de dire que les femmes, c'était la porte de l'enfer.
Ah ouais, rien de moins.
Rien de moins, parce qu'elles s'offraient au regard et elles jouaient leur rôle de séductrice. C'était à cause d'elles, finalement, qu'il y avait eu le premier péché originel et donc elles perpétuaient ça, finalement, au théâtre.
Ouais.
Donc bref, les premiers siècles, c'était vraiment pas reluisant l'image qu'on avait du théâtre. Et le théâtre, finalement, a disparu complètement pendant 6 siècles de l'Europe, à tout le moins. Dans d'autres régions du monde, c'était complètement différent. Mais en Europe, ça a disparu pendant 6 siècles. Il n'y avait plus que des saltimbanques, des montreurs d'ours, des acrobates, mais plus de théâtre classique en tant que tel. Et puis, le théâtre, il est revenu à cause de l'Église.
Ah,
okay. Mais pas du tout le théâtre gréco-romain. C'est un théâtre, en fait, qui se déroulait dans les églises et qui avait pour rôle, en fait, d'évangéliser, de montrer des mystères, de montrer aussi des vides saints sur les parvis. Donc, c'est ce qu'on appelait les drames liturgiques, le miracle. Donc, ça, c'est vraiment une vie de saint qu'on présentait sur le parvis. Il y a eu aussi le mystère au XVe siècle. Et ça, ça se déroulait pendant les grandes fêtes, donc Noël, Pâques. Et on investissait énormément d'acteurs, de personnages. Il pouvait y avoir de 100 à 500 personnes qui se retrouvaient, qui se costumaient et qui jouaient un rôle dans une immense pièce.
Tout le village, finalement, il n'y avait plus personne dans les oui. bains en avant, peut-être.
C'est ça. Et c'était aussi, au début, fait par les religieux et ensuite par les laïcs. Et c'était toujours aussi gratuit. C'est, les personnes qui faisaient ça n'étaient pas, ne recevaient pas
des professionnels.
Ouais, non, non, c'était amateur.
À certains moments liturgiques forts de l'année.
Exact.
Bon, et là, partant de là, j'imagine que la relation entre l'Église et le théâtre s'est, disons, simplifiée ou...
Ben, elle s'était améliorée au début parce que ça venait de l'Église. Mais ensuite, ça a été récupéré pour des jeux profanes aussi. Et donc, dans ces jeux profanes...
C'est le retour des obscénités.
Des fois, oui. Donc, ça montrait des scènes parfois d'adultère. Les femmes sont redevenues des actrices également à la Renaissance. Et à la Renaissance, on a redécouvert le théâtre gréco-romain.
Ouais.
Donc, en redécouvrant ce théâtre, il est redevenu quelque chose d'un peu plus élitiste. Tranquillement, les mystères, les miracles qui étaient pour toute la population ont commencé à disparaître. Donc, ce qui était vraiment le théâtre médiéval, pour devenir quelque chose pour une élite pour laquelle il fallait payer. Dans des théâtres, c'est l'époque aussi de Shakespeare, donc du théâtre élisabétain, vraiment une explosion là, au niveau des drames, de Machiavel, Ruzante, la Commedia dell'arte en Italie.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment une transformation du théâtre qui a eu lieu à ce moment-là. Et l'Église a recommencé à condamner un peu ce théâtre-là parce que il n'élevait pas forcément les bonnes mœurs, si on peut dire.
Et bon, passons vite, là, nécessairement, là, on n'a pas le choix. À l'époque d'aujourd'hui, où il y a quand même des prises de position de l'Église en faveur des arts en général, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a encore des condamnations qui sont en vigueur?
Non, parce que la vision qu'on a des arts et du théâtre est beaucoup plus positive. Mm. On se rend compte que oui, on peut montrer même les difficultés humaines via l'art, en fait. Et que ce n'est pas obligé toujours de montrer, par exemple, des vies de saints, ce qu'on appelait les patronages au début du XXe siècle, de montrer seulement des histoires qui sont très, très positives, finalement, mais de montrer aussi qu'il peut y avoir des choses vécues qui sont difficiles. C'est le cas, par exemple, de Jean-Paul II, lui-même, qui a écrit des œuvres où il parle de mariages qui sont difficiles, de la paternité qui est difficile à vivre. Et donc, c'est une ouverture à l'art qui est beaucoup plus grande. Par exemple, Jean-Paul II, encore dans une belle lettre aux artistes, en fait, il dit que l'art est par nature une sorte d'appel au mystère. Même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme et les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque chose la voix de l'attente universelle d'une rédemption. Donc un rôle de l'acteur qui, déjà, bien sûr, l'excommunication a été levée au XVIIIe siècle, heureusement.
Ça aide, ça.
Oui, mais l'acteur...
Ça favorise le dialogue.
Oui. L'acteur est vraiment vu comme quelqu'un qui peut élever par son rôle, qui peut apporter une interprétation du monde qui est différente, qu'on retrouve également dans d'autres formes d'art, comme dans la littérature, les arts visuels ou la musique. Et cet appel vraiment à vivre, à faire découvrir la beauté aussi.
Merci beaucoup, Ariane. Et en fait, ça met bien la table à ce qui nous attend pour la suite. Là, on va accueillir notre invité du jour. Il était promis à une carrière sur les planches, mais il a tout quitté pour jouer le rôle de sa vie, l'abbé Robert Gendreau. Monsieur l'abbé, bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde.
C'est un plaisir.
Tout plaisir est pour nous. Alors, vous êtes prêt depuis une petite quarantaine d'années.
Exact.
Aujourd'hui responsable des paroisses Saint-Sylvain et Saint-Yves à Laval, dans le diocèse de Montréal. On a pu lire récemment, d'ailleurs, l'entrevue que vous avez accordée à mon collègue Simon Lessard dans notre plus récent numéro spécial d'automne 2023 du Verbe. D'ailleurs, c'est Simon qui nous a mis sur la piste en revenant de votre entretien. Hein. Il nous a dit « Cet homme est vraiment théâtral ». Alors, nous, on a eu l'idée de vous inviter pour parler de théâtre, mais en fait, je pense que vous avez eu une vie avant votre ordination. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout.
Racontez-nous.
C'est presque des vies.
Ah oui, des vies. Ouais, ouais. Vous faisiez quoi avant d'être ordonné, monsieur l'abbé?
Alors, je ne savais pas où aller et je devais trouver un métier. Il y avait du théâtre qui se faisait au cégep où j'étais. C'était pas encore cégep, mais c'est ça. Et puis, il m'invitait, puis moi, je trouvais que c'était pas assez sérieux. Je savais pas quoi faire, mais je pensais pas que ce serait le théâtre, vraiment. Mais un an plus tard, j'étais toujours devant l'impasse. Alors, j'ai accepté de joindre la troupe, mais ce qui me plaisait, c'était la troupe. c'était de travailler ensemble. Mmh. C'était l'époque des communes. À l'époque, ceux qui ont connu ça, là, on vivait là-dedans, puis on aimait ça. Puis bon, puis c'est vrai que c'est bien plaisant. On travaille fort ensemble, on se couche tard, on se lève tard, on va au restaurant. Mais on travaille ensemble, puis on bâtit quelque chose. Et à un moment donné, ça éclate et c'est la grande joie qu'on partage pendant tout le temps des représentations. Mmh. Donc, j'aimais ça. Ça donnait un sens à ma vie à ce moment-là. Ne sachant pas où aller, ne sachant pas où était vraiment ma vocation.
Vous étiez un tout jeune adulte, autour de la vingtaine, le jeune vingtaine.
C'est ça, autour de la vingtaine, oui.
Donc, vous avez roulé votre bosse comme acteur pendant quelques années?
J'ai pris de la formation.
OK.
J'ai suivi 5-6 ans de cours. J'ai eu même un stage à Londres et pour essayer d'apprendre la création collective, qui, à ce moment-là, c'était un concept nouveau, puis... Je voulais le trouver. Donc, à 20 ans, j'aurais pu aller à New York, mais j'avais peur un peu. À Londres, j'étais plus sécure.
Ben oui, c'est beaucoup plus tranquille.
Mais ça a été très intéressant. J'ai appris des bonnes choses. Et je suis revenu. Puis là, je suis devenu un jeune professionnel. Et finalement, un professionnel pour 2 ans.
Ah oui? Oui. Une pièce mémorable dans laquelle vous avez joué? Un rôle mémorable, peut-être?
J'ai pas eu des grands rôles. J'ai eu des petits rôles, mais dans des très bonnes pièces.
OK.
Oui. La dernière, c'était « Equus ». De Peter Schaeffer, c'est un gros succès à New York et ça a très bien marché à Montréal. Et puis, il y avait une pièce québécoise aussi qu'on avait jouée à minuit. Ça s'appelait Wouf Wouf. C'est un auteur qui malheureusement est mort très jeune, mais ça avait été un immense succès. C'est des concepts nouveaux qu'on mettait en place. Et puis, ma première pièce, c'est un Federico Garcia Lorca. Ça s'appelait Yerma. Avec Monique Miller, Jeannine Suteau. T'étais des grands noms, là.
Oui, 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 quand même.
J'étais en bonne compagnie.
Uh-huh.
Oui.
Et bon, vous avez évolué dans ce milieu-là pendant quelques années. Aviez-vous la foi à ce moment-là?
Je pense avoir toujours eu la foi. Comme plusieurs, peut-être c'est la pratique qui a manqué parce que moi, je voulais. Tout jeune, là, j'étais vraiment très pieux. Et je pense que j'ai déjà évoqué la vocation de prêtre tout jeune. Et puis, à ma première communion, ma tante qui restait chez nous a dit « Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? » Oh, j'ai dit un beau missel. Je rêvais d'un missel. Elle m'est arrivée avec un missel pour enfants.
Oh.
J'étais découragé. Je voulais le gros avec les rouges, là, tu sais, t'as le latin, le français toute l'année. Alors, j'ai pas dit ma déception, pour pas faire de peine. Mais bon, ça n'a jamais été encouragé. C'est pour dire que...
Mm.
Et puis, après ça, à 16 ans, je voyais que l'église était pleine. Mais je trouvais que les gens n'étaient pas fervents, ils ne priaient pas, ils étaient là comme par habitude.
Mm.
Alors, j'ai quitté l'église parce que je trouvais que les gens ne priaient pas assez. Donc, pour une raison religieuse.
C'est intéressant.
Sauf que ça m'a joué un tour parce que là, je me débranchais.
Mm.
Mais je me rappelle qu'en sortant de l'église, cette fois-là, j'avais dit, « Toi, dans 10 ans, tu vas être vide. » Et c'est ce qui est arrivé.
Vous avez prophétisé.
Ben quasiment. Bon, après ça, le théâtre, lui, j'aimais ça beaucoup parce que je me rappelle une pièce que je jouais au Théâtre du Nouveau Monde qui s'appelait « Floralie, où es-tu? » de Roch Carrier. Et moi, je jouais le fou du village. Mais quand j'entrais sur scène, puis je ressentais les 500 personnes... qui, là, me regardait, j'étais sûr, il me regardait. Alors là, il y a quelque chose qui se passe.
Ouais.
Et là, j'ai fait le plus merveilleux fou que vous avez jamais vu sur scène. Il y a même eu une critique dans le journal, et Roch Carrier a dit, vous avez fait un rôle de ce que moi, j'avais simplement évoqué.
Mm.
Tellement la communication était forte, puis j'aimais ça. Après même une représentation, il y a une madame avec sa fille qui vient et dit... Monsieur, vous avez joué exactement comme mon fils qui est très malade.
Ah oui.
Alors, j'aimais ça. J'aimais la communion.
C'est intéressant parce qu'on l'entendait en début d'émission, les premiers pères de l'Église, les pères de l'Église au premier siècle, l'Église parlait du théâtre comme quelque chose de faux. Mais là, vous avez fait un rôle qui était plus vrai que vrai. Hein? Comment vous viviez avec ce sentiment-là de jouer quelque chose qui n'est pas...
le mystère s'est installé à ce moment-là. Le mystère de la communion avec les spectateurs.
Uh-huh.
Alors ça, là, ça a toujours été une force, un don. Je pense que je l'ai toujours eu, puis je l'ai encore, puis je l'aurai toujours. je sens là, la communion. Et c'est une responsabilité aussi, car on doit donner quelque chose. Et ça me plaisait beaucoup. Cependant, j'ai été confiné au petit rôle. J'ai jamais eu un metteur en scène qui m'a dit « Toi, on va faire quelque chose.
Mm. »
Et alors, j'ai pas eu de maître, vraiment, ou de mentor, tu sais, qui m'a... Après un certain temps, j'ai dit « Je pourrais jamais élever une famille avec ce métier-là. » Alors, je l'ai quitté en disant « Si ça avait été ma place, je l'aurais su. » Mais là, la foi est arrivée entre-temps, là.
Comment?
Ah! Bon, ça aussi, c'est assez dramatique. Presque tragique. Parce que dans le théâtre, ce qui est intéressant, c'est la différence entre le tragique et le dramatique. Les Grecs, c'est tragique parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais depuis que le Christ est venu, il n'y a plus rien de tragique. Tout est dramatique. Il n'y a pas de tragique parce qu'il y a toujours une issue.
Ouais.
C'est extraordinaire, ça. On emploie le mot tragique beaucoup trop souvent, à mon avis. Mais pour les païens, peut-être, c'est bon. En tout cas, je me retrouve à un moment donné... tout en étant toujours un chercheur du mystère et en ayant trouvé que le théâtre ne me nourrissait pas dans ce que je voulais, je me suis dit, mais un instant, est-ce que la vie a un sens? Et là, la réponse s'imposait à moi. Oui, c'est l'amour. Parce que là, en amour, il y a des... Bon, il y a des poètes, il y a des... Moi, j'avais pensé à Édith Piaf à l'époque qui m'inspirait beaucoup. Mais je me disais, elle ne peut pas être un maître pour moi. Elle se droguait, elle faisait des affaires, puis tout ça. Non, non, non. Alors, quand j'ai vu que je trouvais aucun maître, ah bon? Mais j'ai dit, le sens de l'amour, c'est quoi? S'il n'y en a pas, là, si c'est juste une affaire pour faire des chansons ou faire du théâtre...
des beaux mots.
On s'amuse, puis après ça, c'est fini. Je regrette. Si je ne suis pas votre homme, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'était dramatique au plus haut point, parce que je me disais, je ne continuerai pas à vivre.
Mm.
Je ne suis pas intéressé. Et c'est là où j'ai senti une présence à côté de moi. Excusez-moi, là, mais ça arrive rarement, je ne l'ai pas cherché. Je me retourne et je vois le Sacré-Cœur debout à côté de moi. C'était une vision. On voyait bien que c'était translucide, mais en même temps, il était là, puis il me regardait, le doigt pointé sur son cœur, la main ouverte. Et à travers son cœur, il y avait un rayon laser qui passait. Je l'ai vu. Mais tout de suite, j'ai dit... Je ne l'ai pas dit en anglais, je n'ai pas dit « yes », mais j'aurais eu le goût de le dire. C'est ça. Là, j'avais trouvé mon maître. Et là, je me suis retourné en disant « Désormais, il n'y a plus aucune question dont je n'aurai pas la réponse. » C'était juste une première étape.
C'est devenu lui votre metteur en scène qui vous a pris sous son aile pour vous mener au grand rôle.
C'est un maître que je voulais.
Il y avait un rôle pour vous.
Là. Ah là, il fallait que j'aie un guide. Là, j'en avais un.
Ouais.
Et le fameux rayon laser, j'ai souvent demandé ce que ça pouvait être. Ben, un rayon de l'Esprit-Saint, hein, qu'on dit. C'est comme si ça venait de... Le ciel passait par son cœur pour se donner à nous. Bon.
Comme l'image de Faustine.
Un peu, Oscar, un peu. Mais elle, ça ne vient pas d'en arrière.
Mm.
Ça sort du cœur, mais ça vient pas d'en arrière. Bon. Bon, première étape. Deuxième étape, je suis toujours... Je pratique pas, puis je fais rien, puis tout ça. Mais je passe des pliants pour une réunion politique, parce que je pensais que ce serait peut-être en politique.
Ah, ben, c'est pas fou, ouais.
Ouais, parce qu'il y a du monde, là aussi, puis... Ah, oui. Mais bon.
La communion aussi, hein?
Un peu, oui.
Des fois.
Non, j'ai pensé que ça pouvait être là, mais... En politique, il faut vraiment que tu viennes d'une famille de politiciens. Il faut qu'on t'aille appris. Là aussi, il te faut un maître ou des maîtres. J'en avais pas du tout. Je n'y comprenais rien. Comment garder la vérité dans la politique? C'était mon défi. Puis je savais que c'était possible, mais très ardu. J'avais personne. Donc, c'était pas la politique. Je passe des feuillets. J'arrive dans une église qui avait pas l'air d'une église, parce qu'il y a des Saint-Sacrement à Montréal, c'est des appartements, puis en arrière, une église, à l'intérieur. J'arrive pour passer des... Et là, je vois une église. Ah ben, je m'arrête. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé. Il y a une messe qui commençait. Je mets mes dépliants à côté. Puis là, ben, voilà, mais je trouvais ça beau. J'aimais ça, j'étais bien. Tout d'un coup, je vois le confessionnal allumé. On va faire les choses comme du monde. Envoyez au confessionnal. Et là, le prêtre, il me dit, tu vas-tu à messe le dimanche, mon jeune? Hey, j'ai dit là, parle-moi pas de même d'abord.
Ça commence bien.
Puis deuxièmement, c'est pas tes affaires. J'ai eu assez de misère à quitter parce que c'est tout un drame. J'étais le premier qui faisait ça. J'ai dit, non, je vais pas. Bon, ben, c'est la première chose à faire. Bon, je te donne l'absolution. Alors ça, j'ai bien compris qu'il me donnait l'absolution. J'arrive dans mon bain, j'étais très fâché. Puis là, j'ai comme une voix de la conscience qui me dit, c'est donc bien fâché. J'ai dit, oui. Pourquoi? Ben, c'est quoi qui se mêle, lui? Il n'est pas arrivé quelque chose dernièrement dans ta vie? Oui, là, j'ai pensé à mon Sacré-Cœur. J'ai dit, oui, il est arrivé quelque chose. Ça, c'est vrai. Combien y a-t-il d'heures dans une semaine? Ben, j'ai dit, sais-tu, moi, juste 7 fois 24. Je suis même calculé dans ma tête. C'est drôle, hein? Je me parlais à moi-même. J'en reviens pas. C'est un mystère, ça. 168 heures. Le bon Dieu, l'Église te demande une heure par 168 pour le remercier de t'avoir sauvé. C'est pas, oh, j'ai dit, OK. C'est gagné. Je suis devenu pratiquant ce jour-là, pour toujours.
C'est la première fois que je l'entends, celle-là.
Ouais. Et puis, mais la vie continuait, mais j'allais à messe le dimanche, mais sans le dire aux autres. Et puis, finalement, c'est pendant une messe, je venais de terminer un petit stage en politique, et là, je dis au Seigneur, où tu veux que j'aille? Je vais faire ce que tu veux. Et puis, c'est là où, quand j'ai vu le prêtre arriver, c'est venu me chercher dans le ventre. Ce serait pas prêtre. Et là, j'ai eu comme une petite extase. Ça non plus, il ne faut pas le chercher. Mais une extase, c'est que tout ton corps vibre. Il est comme électrifié. C'est assez. C'est pas mal de fun. Mais tu ne cherches pas ça, là. Mais ouh! Et là, j'ai comme vu des lettres. C'est mystique, hein? Viens, j'ai besoin de toi pour servir mon peuple. Et j'étais certain que c'était ma vocation. J'ai dit, mais pas tout de suite. Hey, rentrer, puis dans 5 minutes, tu règles ça. Combien de temps tu veux? Ben, 5 ans peut-être pour... très bien. Plus d'extase, plus rien, plus de vie. T'es parti. Je reviendrai dans 5 ans peut-être. Et j'ai dit, que je vais faire pendant 5 ans? Je sais où aller. C'est oui et c'est maintenant. Et c'est le moment où le prêtre élevait l'hostie. Puis là, elle était toute rayonnante. Ah ben, le Seigneur est revenu. Je rentre au séminaire 3 mois plus tard. Je suis devenu prêtre. J'ai jamais eu aucun problème. C'était ma vocation. Et là, la question de rencontrer les fidèles et tout ça. Il y avait la question du théâtre, mais la communion. Mais là, c'était plus du théâtre. C'est j'ai une mission, c'est annoncer le Christ. Et c'est ça qui demeure mon challenge, ma mission.
Votre mission.
Oui.
L'abbé Robert Gendreau, c'est... ce que nous disait Simon, c'est vrai, là. C'est vrai que vous êtes théâtral.
Je suis sorti du théâtre, mais le théâtre n'est pas sorti de
moi. Ah ouais, c'est ça, on le voit bien, on le voit bien, c'est passionnant. Vous parlez de la communion, c'est drôle parce que avec la foule, les spectateurs qui regardent, c'est Fabrice Lucchini qui disait ça dernièrement dans une entrevue. On oublie souvent, nous, comme spectateurs, quand on va voir du théâtre, qu'on est un des pôles, un des axes de ce qui se passe, oui, partie prenante complètement. Je voyais Thomas opiner, je sais qu'il a fait du théâtre, qu'il a vécu dans une commune aussi. Il y a quand même des points de convergence assez
intéressants. Oui, mais moi, c'était passé de mode.
Oui, c'est ça, un peu à retardement. Ouais. T'es pas 68 heures, toi, non?
Non.
vous vivez ça comment? Est-ce que je vous pose la question à tous les deux. Là. Bon, Ariane, c'est plate, t'es pas prête. Là.
Mais, par mon baptême.
Ouais, par ton baptême, c'est vrai. C'est quoi les rapprochements qu'on peut faire entre la liturgie, vous êtes d'ailleurs un spécialiste de liturgie, l'abbé Gendreau, et une représentation ou une pièce de théâtre? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire sans nécessairement les calquer un sur l'autre?
Bien, je dirais que dans l'attitude de la disposition, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose qui se trouve au théâtre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être là comme un service pour ceux qui viennent à cette célébration-là. Là, je parle de...
En tant que prêtre.
En tant que personne qui doit servir l'Assemblée, hein, en présidant la liturgie, par exemple. C'est une orientation vers l'autre. Mais en même temps, c'est intimement personnel, c'est-à-dire que je suis là pour eux. Ils viennent pas me voir, ils viennent voir quelqu'un d'autre.
Mais le point focal reste souvent...
Mais vous, c'est en même temps en tant que... tellement... Ça passe tellement par qui je suis. C'est tellement la matière de ce qui se passe là dans mon rôle de présidence. C'est de trouver cet équilibre-là, de ne pas se dissocier du tout, d'être toute là. Mais d'être toute là pour que les gens rencontrent quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui ressemble au théâtre là-dedans.
Ce que j'essaie de méditer souvent, avec le changement liturgique, autrefois le prêtre était dos au peuple. Et quand j'étais enfant de cœur, c'était ça, enfant. Ouais. Et maintenant, comme prêtre, moi, ça a toujours été face au peuple. J'ai toujours aimé ça, être face au peuple. Mais attention, pas pour être vu, mais pour que ce que je fasse soit visible. Et ça me fascine d'être là, que les gens voient que le Christ prend le pain, il prend la coupe, il fait ça. Mais on s'efface. Mais comme tu dis très bien, Thomas, c'est par nous que ça passe. Hmm. Mais ce n'est pas sur nous. Le prêtre, c'est celui qui rend le service d'offrir le sacrifice à Dieu au nom de tout le monde qui est là. C'est vraiment liturgique. Il n'y a pas un acteur qui fait ça. Et puis, il n'est pas supposé avoir un prêtre non plus qui joue un rôle. Hmm. On ne joue pas un rôle, je joue le Christ. Ouais, ouais. Non.
Ouais, clairement.
Je suis comme je suis. Mais, comme tu dis, c'est intense, c'est à l'intérieur de soi. On rend un service liturgique qui nous dépasse infiniment. À chaque fois qu'on tient le Christ dans nos mains, puis qu'on fait la génuflexion, c'est pas une représentation, là. C'est de l'amour authentique, véritable, et pour les fidèles et tout le monde. C'est absolument merveilleux. Ce service de prêtre. S'il y en a qui sont appelés, là, courage, allez-y, vous rendez un service inouï. Quand il n'y a pas de prêtre, on fait toutes sortes d'autres liturgies, mais on n'y arrive pas à la cheville de l'Eucharistie. C'est dommage à dire. Mm-hmm. Il faut des prêtres. Je travaillais pour les vocations un temps, puis je disais...
Ça paraît. Hein? Ça paraît.
Ah oui? Oh, j'aurais toujours voulu travailler pour ça, moi, tout le temps. Sans Jésus, on est perdu. Sans les prêtres, on perd Jésus. Parce qu'on est tout seul, on n'a plus de guide. Mm. Le fameux guide dont je parlais tout à l'heure, c'est lui. Il passe par les prêtres, il passe par le Verbe, il passe par tout ce que son esprit inspire. Mais à un moment donné, il faut l'Eucharistie pour que tout ce qu'on fasse soit apporté à l'autel, puis que le prêtre monte ça avec le Christ. En tout cas, c'est un mystère magnifique.
Parlons-en aux communautés qui n'ont pas de prêtre régulièrement, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde. C'est une souffrance, c'est quelque chose elles vivent un manque, ces communautés-là, de ne pas pouvoir vivre l'Eucharistie de manière régulière.
Puis je pense, j'en parlais directement aussi, je pense que la question financière ne doit pas nous bloquer. Si tu vas dans une église où il n'y a pas d'argent, puis il fait frette, puis tu mets ton manteau. Moi, en Italie, quand j'étais aux études, je disais la messe le dimanche matin avec mes bottes, mon gros manteau, en dessous de l'aube, là. Parce qu'il faisait froid à mourir. Il n'y a pas de chauffage là-bas. Alors, on est capable de faire ça ici aussi. On n'a pas besoin de mille affaires. Mm-hmm. L'Eucharistie, du pain, du vin, puis du monde.
Mm-hmm.
Puis en way.
L'abbé Robert Gendreau, merci beaucoup pour votre témoignage. On poursuit l'émission sur le thème du théâtre. Si vous voulez vous joindre aux discussions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
On l'a entendu un peu plus tôt, les relations entre l'Église et le théâtre n'ont pas toujours été très simples, mais il y a eu de grands acteurs dans l'histoire de l'Église, acteurs dans tous les sens du terme, qui ont touché de près ou loin au théâtre. Ariane, t'en as déniché quelques-uns.
Oui, quelques-uns, des dramaturges, des comédiens aussi. En fait, ils sont assez nombreux. On peut en choisir une première assez ancienne.
Et on peut déduire qu'ils n'ont pas été excommuniés.
Non, c'est ça. Mais peut-être que certains, oui, je ne sais pas. Ceux qui sont plus connus, bien sûr, sont plus récents. Mais j'en ai trouvé une très ancienne dramaturge, Sainte-Hildegarde von Bingen.
Ah ouais, elle avait cette corde-là.
Oui, elle est docteur de l'Église depuis 2012, canonisée aussi par Benoît XVI. C'était la dixième enfant d'une famille de nobles et elle a été confiée au monastère à 8 ans et elle a pris le voile à 14 ans. Parce qu'on est en 1100 et quelques et à cette époque-là, la majorité, en tout cas chez les filles, était très très tôt.
L'espérance de vie était de 22 ans, donc il fallait
Oui, aussi. Et en fait, elle est devenue abbesse, c'était une mystique, elle a eu des visions, elle était aussi herboriste, elle s'intéressait à la santé. La santé aussi, mais dans toutes ses formes, dans ce qu'on ingérait, ce qu'on sentait, le sommeil, la musique aussi. Tout ça participait pour elle à une saine santé, autant spirituelle que physique et morale. Et en 1151, elle a écrit en fait le plus ancien drame musical médiéval connu qui s'appelle Ordo Virtutum, l'ordre des vertus. Et c'est une très grosse œuvre avec énormément de voix. Il y a 17 vertus, 17 femmes qui chantent. Il y a l'âme aussi d'une femme qui chante et qui est confrontée en fait aux vertus et au diable. Elle est tentée par le diable qui est joué par un homme qui lui ne chante pas. Il ricane, il parle, il grogne dans la pièce.
C'est intéressant.
Et il y a aussi un cœur d'hommes qui sont les patriarches et les prophètes auxquels les vertus parlent aussi et un autre cœur de femme. Donc c'est une œuvre quand même assez complexe en 5 parties et c'est vraiment un drame. Il y a aussi une mise en scène qu'on peut faire à partir de là.
J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont avoir envie de monter ça.
Oui, ça a été monté.
T'en parles, puis j'ai envie de la voir.
Il y a plusieurs représentations qui sont disponibles en ligne, si jamais ça vous intéresse.
Merci, Ariane. Un autre un peu plus contemporain, peut-être?
Plus contemporain, on peut prendre Jean-Paul II, Karol Wojtyla, qui, lui, en fait, dans sa jeunesse, a été très attiré par le théâtre et la littérature. Et il voulait devenir comédien, acteur. Mm-hmm. Et il a aussi écrit plusieurs œuvres. Il y a La boutique de l'orfèvre, la paternité. Non, le rayonnement de la paternité, ça, ce sont des œuvres qu'il a écrites après avoir été ordonné prêtre, mais il en a aussi écrit dans sa jeunesse, qui sont Job, David et Jérémie. Et ces œuvres-là sont. On est en guerre, en fait. Il est en Pologne, il y a l'Allemagne qui occupe le territoire. Et c'était vraiment des œuvres où il faisait des liens entre Israël et le destin polonais, donc des œuvres un peu plus nationalistes. Et vraiment, une importance vraiment pour le texte. Ce ne sont pas des œuvres où il y a des grands décors et des grandes mises en scène. C'est vraiment la façon dont on déclame le texte, cette sorte de communion aussi à vivre avec les spectateurs. Parfois des longs, longs monologues.
Ouais. Vous avez déjà lu ces pièces à Jean-Paul II, non?
Oui, Boutique de l'Orfèvre, puis un film d'ailleurs qui a été fait.
Oui, c'est vrai.
Mais il faut dire aussi, si je peux me permettre, parce que ça m'a fasciné, Jean-Paul II, d'ailleurs, ça me donne un aura particulier.
allez-y.
C'est qu'il avait une conception nouvelle du théâtre. Malheureusement, ça n'a pas été repris et étudié en profondeur. C'est que, un peu comme tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est qu'il faisait du spectateur un personnage. Il y avait vraiment ça dans l'esprit quand il écrivait. Il savait qu'un public réagit d'une façon et d'une autre. Et ça, c'était...
C'était pas unilatéral.
Non, c'est ça. C'est pas un texte que tu dis comme ça. Alors, cette communion, encore une fois, était pour lui un aspect nouveau. J'aurais beaucoup aimé ça, développer ça, mais là...
Mais il est peut-être pas trop tard, la vie.
C'est comme la théologie du corps. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir de l'œuvre de Jean-Paul II.
Oui.
Et plus près de nous, au Québec.
Nommer, peut-être que vous le connaissez aussi, le père Émile Legault, qui a fondé, donc c'est un prêtre catholique, qui est devenu prêtre en 1930 dans la congrégation de Sainte-Croix. Et il a fondé la première compagnie théâtrale du Québec qui s'appelait Les Compagnons de Saint-Laurent, donc qui a présenté des œuvres de 1937 à 1952. Il n'y avait pas d'école d'art dramatique à l'époque. Donc ça a été vraiment un début. Au début, beaucoup des œuvres religieuses, mais aussi des œuvres classiques, donc Molière, Corneille, Racine, et avec des comédiens qu'on connaît aussi aujourd'hui, des chanteurs. Il y a eu Félix Leclerc, Guy Pronovo et Jean Coutu, Hélène Loisel. Il a même obtenu une bourse du Premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, pour aller étudier en Europe et revenir avec des idées. Donc ça a été un début. Après, il y a eu la Révolution tranquille et des écoles d'art dramatique qui sont nées, la télévision, et ça a beaucoup changé par la suite. Et l'école le Théâtre du Nouveau Monde, notamment, qui a été fondé par plusieurs de ses élèves.
Alors, c'est ça, c'est intéressant parce que ça jette un autre regard sur la fameuse grande noirceur. Hein. On a un clerc qui monte la première compagnie de théâtre.
Et qui ne s'est pas limité juste à des œuvres chrétiennes ou de patronage non plus, c'est vrai.
Malheureusement, la dimension spirituelle, d'après moi, a été un peu mise de côté.
De côté.
Tous ces acteurs-là que j'ai connus, tout ça, très peu ont eu des funérailles chrétiennes, ils ont tout abandonné, ah ouais. Les enfants ne sont pas mariés, il n'y avait pas la... Ça a été peut-être...
Une transmission qui s'est manquée.
Il y a quelque manqué. Chose là qu'on a trop misé de l'autre côté parce que ça allait de soi à l'Église. Oui. Pas besoin de s'en occuper. Tout s'est effondré. Puis, ça a été un petit peu dommage de ce côté-là.
Merci beaucoup, Ariane.
De rien.
Thomas Malenfant, prêtre dans Mission Bellechasse et de chemin sur la rive sud de Québec. On l'a vu là, au début de l'émission, la relation conflictuelle entre l'Église, le théâtre. Allons au fond de ce malaise-là, de ce malaise originel, on pourrait dire. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'on... On parlait de la question de la vérité. J'aimerais ça qu'on gratte ça ensemble. Vas-y.
Moi, j'ai lu un livre. Hein, pas pour me vanter, là. Mais j'ai lu un livre... J'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ce sujet-là. C'est la théodramatique, la dramatique divine de Hans-Urs von Balthasar qui refait un peu, qui commence le livre en refaisant cette histoire-là d'un conflit, d'une ambiguïté là, dès les origines, dès l'Antiquité, tout ça. Mais il ramène, il met cette ambiguïté-là à la lumière. Dans le fond, c'est l'ambiguïté fondamentale de tout art. C'est juste que le théâtre, c'est comme, pour lui, dans ce qu'il présente, c'est comme un art au carré. C'est un art tellement vivant, tellement proche de l'humain, de sa grandeur et de sa chute, que toutes ces ambiguïtés-là qu'on a dit, hein, ce côté-là quasi-religieux dans l'Antiquité, ce rapport-là de faux, le théâtre, c'est-tu faux? C'est-tu un mensonge? C'est-tu un péché?
En quoi ça serait plus faux ou mensonger que la littérature
exact,
ou le cinéma?
Exact.
Ou je sais pas.
Ce qui nous dérange, c'est que c'est plus faux dans le sens que ça peut être plus faux. Parce que ça peut être plus trompeur. Mais la question, c'est est-ce que c'est faux? C'est artificiel. C'est de l'art. Mais c'est un art pourquoi? Ça émeut de voir devant soi un couple qui joue un couple avec une histoire dramatique, d'amour impossible, ça nous émeut. Mais la question, c'est, ça nous émeut pourquoi? Si, comme disait saint Augustin,
pourquoi non? En vue
ça
de quoi?
Nous émeut pour nous exciter, si ça nous émeut pour nous divertir, puis là, il y a toute la pensée de Pascal qu'il faut retrouver, de sortir du réel, de sortir de notre histoire, si c'est pour nous émouvoir, pour nous sortir, c'est vrai que c'est faux, c'est vrai que c'est pas bon. Puis c'est vrai que c'est de la propagande, c'est vrai que c'est un avilissement de l'être humain parce que ça nous extrait, mais c'est pas obligé d'être ça. L'art en général, et le théâtre en extra particulier, ça peut être une exploration, une façon, pas de fuir le réel, mais de le regarder plus, de le regarder
d'accéder
pour
encore
vrai,
plus.
De le voir. Le réel qu'on voit plus dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe? Le théâtre, c'est quoi? C'est il y a une convention. Il y a une espèce de magie, oui, puis c'est ambigu, puis c'est stressant, mais qu'est-ce qu'elle fait? On est tous assis là, puis on regarde. On regarde du monde faire des choses qu'on a vues plein de fois autour, mais là, on le regarde. Et c'est fait par exprès. Alors, cette ambiguïté-là, elle est dans l'intention plus ou moins consciente, mais dans qu'est-ce que ce théâtre-là veut faire? Alors, lui, il part de cette réflexion-là, pas pour proposer... Un théâtre chrétien. Hein, il fait l'histoire un peu de ça, mais ce que Jean-Paul II souhaitait, puis qui reste à faire dans un sens. Mais il part de cette expérience-là, c'est un homme d'une culture hallucinante, il part de cette expérience-là pour développer une nouvelle façon, des nouveaux outils pour penser à Dieu, pour faire de la théologie. Mais là, tu sais, c'est pas de la théologie dans le sens d'aller à l'école là, trop longtemps, puis de perdre du temps. Là. La théologie, dans le sens d'une pensée vers Dieu, de réfléchir à lui.
Avec les catégories du théâtre?
Avec cette expérience-là, ce que le théâtre nous fait vivre. Puis il propose dans ce livre-là, puis moi, je fais juste ici arriver avec des petits bouts sur les petits bouts que j'ai compris, mais d'arriver avec Et c'est vrai que c'est éclairant. C'est vrai que c'est éclairant. Par exemple, il va prendre la scène. C'est quoi une scène? Une scène, c'est un espace. C'est une vraie place, une scène. Ça existe pour vrai. Mm-hmm. Contrairement à l'espace...
Comme le plateau ici.
C'est comme un, le plateau. C'est vrai, enfin, on est dire, dans le réel. Il y a des coordonnées ici, là, ouais, géographiques.
On n'est pas de l'intelligence artificielle.
C'est pas un hologramme. Non. C'est pas... C'est, ça a un côté... C'est un espace qui est dans l'espace avec un grand E. C'est pas comme l'espace du livre, par exemple, qui est dans notre tête, lui.
Ouais.
Mais c'est une vraie place. Mais en même temps, c'est une vraie place que, par convention, on ne regarde que parce qu'elle pointe vers un autre lieu. Je ne vais pas au Théâtre du Nouveau Monde pour regarder cette place-là. J'y vais parce qu'on, soudain, on prétend, on pointe vers. Puis là, est-ce que c'est un mensonge ou c'est une exploration, c'est une référence? L'ambiguïté est là. C'est un signe vers. Là, c'est un château en Espagne. C'est un salon de bourgeois à Laval. Ça devient ça. Mm. Ça peut être ça. Ça devient ça. C'est un espace qui pointe vers un autre espace et qui fonctionne à partir de la convention, à partir du fait que les gens sont là intentionnellement. Puis ça fonctionne aussi, c'est un espace qui est orienté, qui est là pour le monde qui le regarde. C'est pas un espace aléatoire, c'est pas un espace gratuit. Les objets qui sont... Un objet, là, c'est une scène, là. C'est pas un objet. C'est un accessoire.
C'est une intention incarnée.
Il est là pour quelque chose.
Ouais, ouais, ouais.
Et de cette catégorie-là, de la scène, on peut réfléchir, éclairer le rapport au monde. Le monde comme un vrai espace, qui n'est pas à l'extérieur du réel, mais qui n'a de sens que comme un espace qui pointe vers ailleurs. Où les choses sont là avec une intention, où l'espace s'adresse à moi. Et de là, on peut revoir la création.
Là, tu parles de la création, c'est
la
ça?
La création, autrement, avec un autre regard. Le temps, par exemple, le temps de la représentation, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans aussi. C'est quoi? C'est une heure et demie. On va là, on s'assoit, c'est une heure et demie. Mais c'est une vraie heure et demie. Le théâtre, c'est ça que ça diffère encore une fois. C'est pas comme le livre. C'est pas tu l'ouvres, c'est ton temps à toi. Non, c'est dans le vrai temps. C'est de telle heure à telle heure. Puis si t'arrives en retard,
tu manques le début.
Ouais. Puis c'est du vrai temps qui est dans ta semaine, hein, dans tes 168. Une heure et demie dans tes 168. Ça fait partie. C'est pas à l'extérieur de. Mais ces minutes-là sont bonnes, hein, le vrai drame, il est bon quand ce temps-là nous déploie, nous montre dans le temps, l'éternité. Du vrai théâtre, ça nous montre dans le temps quelque chose qui dépasse le temps. Mais ça nous l'exprime dans le temps. Puis c'est là que Balthazar va nous proposer de penser avec ces outils-là pour nous aider à sortir du rationalisme, à sortir d'une pensée qui est figée, parce qu'il voit dans une pensée qui est statique. Parce que comme on essaie de penser à Dieu, qui est éternel, c'est très facile à un moment donné de se mettre à se prendre pour lui dans notre façon de penser à lui. Bien sûr qu'il est éternel, bien sûr qu'il ne change pas, mais ce qu'il est, il nous le révèle dans le temps. Et ce qu'on voit là, c'est éternel. Mais on ne le verra pas si on se sort du temps, nous, si on le regarde comme un livre. Et alors, on peut repenser à partir de là à l'histoire sainte. L'histoire sainte comme un temps qui réfère, où chaque moment est important, mais qui a un début puis une fin qui est limitée, qui est tout petit par rapport à tout le temps. Mais comme ce déploiement-là, qui est là pour nous faire atteindre, nous, qu'on est dans le temps, Dieu, qui, lui, ne change pas. Et c'est un outil. Ça ne remplace pas les autres outils, mais il propose comme un complément pour nous aider à retrouver ce dynamisme-là, cette humilité-là, dans le fond, de voir que nous, on pense de telle heure à telle heure. C'est pas parce qu'on pense à Dieu qu'on est devenu éternel. On est coincé là-dedans, puis quand on l'oublie, on se retrouve avec plein de problèmes faux sur la liberté, par exemple. Hein? On a une espèce de vision d'un personnage, tu sais, qui est mauvais, tout ça. Alors que tout le temps, tout le drame du temps, c'est justement que non, Les gens
La conversion
changent.
Est toujours possible, oui.
On peut... Judas, dans une vision atemporelle, c'est un traître du début à la fin de l'histoire. Mais ça, c'est du mauvais théâtre. Mm-hmm. Un vrai bon traître, c'est quelqu'un qui ne l'était pas. Mm-hmm. C'est ça le drame de Judas. C'est que non.
C'est un chum.
C'est un chum. Et il a changé. Puis le drame de la conversion, les larmes de Pierre, elles sont belles, pas parce qu'il était fin du début à fin, mais parce que précisément, il a trahi pour vrai. Il se passe quelque chose dans ce que Dieu nous révèle. Mm. Il y a une action. Et Dieu se révèle à nous comme ça. Mais c'est une histoire, puis là, ça, c'est un autre aspect. C'est intéressant. Il parle de l'acteur.
Mais c'est
On
ça,
a parlé
c'est...
un peu tantôt. Un acteur, c'est quoi? C'est une... Puis là, c'est ambigu. Là. C'est super, tu sais, c'est super ambigu. Là. On fait attention. Là. Tu sais, on n'est pas là. Mais... Puis c'est pour ça qu'il est glissant un peu, là, Balthazar. Tu sais, c'est... Mais c'est une parole. C'est quoi, t'es acteur? C'est une parole. C'est un texte.
Un texte, oui.
Incarné. Mais là, attention, là, on n'est pas comme... Là, on est stressé un peu, les chrétiens.
Parole comme un verbe.
Okay, comme un verbe.
Chair,
exact,
par
exact. Mais pourquoi c'est... Puis on a raison d'être nerveux un peu, parce que c'est pas pareil. Parce que dans notre théâtre à nous, c'est notre théâtre à nous, c'est notre art à nous, qui est une pâle image. Mmh. On n'a pas accès à toutes les profondeurs. Ce qu'on peut changer de la réalité, c'est tout petit. Mmh. On a un petit rayon d'action, tout ça. Mais c'est Dieu. C'est de Dieu dont il parle, lui. Mmh. C'est son action à lui. C'est son histoire à lui. Et là, on peut se mettre à penser à notre mission de chrétien dans un contexte, avec ces outils-là. Un bon acteur, par exemple, qui disparaît. Tu sais, Luc Picard, là. Moi, je le trouve bon. Oh, je le trouvais pas bon.
Non, t'as le droit, t'as le droit.
OK. Luc Picard. Tu vas pas voir Luc Picard. Mmh. C'est pas lui que tu regardes. Il est bon parce que tu le vois pas. C'est le personnage. C'est ce qu'il porte. Mais en même temps, c'est parce que c'est lui qu'il porte bien comme ça. Mmh. Fait qu'il y a ce côté-là. C'est de dire...
Pas juste que le texte est bon. Le texte
non, non,
est bon,
non, non. Le rôle de l'interprétation, le rôle de la liberté dans l'interprétation, mm-hmm. la vraie liberté de l'interprète, c'est pas de changer le texte.
C'est de faire ta job.
C'est de le porter. Ouais. C'est de le rendre présent, ce texte-là, cette parole-là. Puis, mais Luc Picard, en même temps...
Avec ce que t'es.
Avec ce que t'es. Mais en même temps, Luc Picard, il faut pas qu'il se prenne pour son personnage. C'est-à-dire que, puis là, il y a différentes écoles de théâtre, mais, mais s'il se prend vraiment pour son personnage, il ne fait plus sa job. Parce que s'il faut répéter 14 fois, le vrai personnage, lui, il ne répète pas 14 fois. Mm. Tu joues un bandit. Un bandit, ça n'obéit pas au metteur en scène. Ça lui tape sa gueule. Il ne devient pas bandit, puis il sait qu'il n'est pas bandit. Mm. Il sait qu'il n'est pas ce qu'il joue. Mais il disparaît derrière. Puis là...
T'es-tu en train de nous dire que c'est ça aussi notre rôle?
On travaille avec... Tu sais, on part, on réfléchit à
ouais,
ça.
Ouais, mettons là, qu'on là, pousse mais, un peu. Là.
Mais, on, puis là, on se dit, OK. Puis là, t'écoutes Saint-Paul qui dit, ce n'est plus le Christ.
Ce n'est plus moi qui vis.
Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Puis je dis pas que c'est pareil. Je dis juste que ça peut aider à penser dans cette direction-là. Mm. C'est pas pareil. Puis il y a plein de différences. Puis il faut savoir les voir. Parce que justement, c'est de Dieu dont il s'agit. Mais c'est le cas de toutes les théologies. C'est à chaque fois qu'on pense à Dieu, il faut tout le temps se rappeler que c'est nous autres qui pensons, puis qu'on peut se tromper, puis qu'on pense les choses à partir de notre regard. Mais en même temps, est-ce que ça peut pointer vers revêtir le Christ? C'est-à-dire de le montrer vraiment sans se prendre pour lui. Que les gens puissent découvrir, parce que le drame ultime, puis c'est ça, je ne veux pas vous vendre le punch, il faut le lire pareil, mais le drame ultime, qu'est-ce que c'est? C'est l'éternel qui rentre dans le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Tout ce que l'art est dans son aspect positif, et c'est ce que Balthazar s'épuise à dire, il n'est pas juste un logos intellectuel. Il est tout ce que l'art humain porte de regard sur l'éternel dans le temps, qu'on se coltaille avec ça depuis que l'homme est l'homme. Ça trouve en Jésus-Christ sa réponse. autant que nos questions mécaniques sur le déroulement, sur les lois de la nature, puis, puis notre nature profonde, ça trouve aussi l'art et surtout le théâtre, ça trouve en Jésus-Christ son point focal.
Monsieur l'abbé.
Hey, parler de la messe dans ces termes-là aussi,
c'est flyé.
C'est vraiment flyé. Je veux dire, c'est trop grand. Tu rentres là-dedans, puis tu es dépassé complètement. Et en même temps, porté.
Oui.
Et tu le fais. Et tu sais que c'est lui qui passe. On touche du doigt le mystère. C'est assez exceptionnel. Et c'est dommage que peut-être on s'est trop habitué autrefois à la messe sans y porter attention. Et puis, on l'a perdu de vue. Alors, on a arrêté de pratiquer, ce qui est tout à fait correct. Quelqu'un qui pratique pas, j'en veux pas. Il a pas compris, il sait pas c'est quoi. Puis j'en veux pas. Mais chercher, on va comprendre, par exemple. Et pour trouver, il faut y aller aussi. Faut répondre à l'appel. Et là, ça se passe devant nous. Quel que soit le prêtre, c'est pas un acteur. Il fait ce qu'il a à faire. J'espère qu'il prononce bien, qu'on puisse goûter au maximum de ce qu'il dit. Parce que la liturgie est belle. Les textes sont tellement beaux. Là, quand tu t'y attaches, là, du début à la fin, là, tu viens, t'es fatigué tellement, t'as allumé à tout ce qui s'est dit. Et après, ben, t'es content.
c'est vrai pour le rôle du prêtre, là, c'est manifeste, là, en fait, dans ce que vous venez de dire, tous les deux. Mais pour le laïc aussi, j'ai l'impression que ça a tout son sens en tant que, justement, être un témoin, être un signe d'une parole qu'on ne détient pas, qu'on n'est pas...
Cette mission-là, dans le cadre dans lequel lui il parle d'abord de la mission du baptisé.
Du baptisé.
C'est-à-dire d'être présence du Christ au monde. Mm. Du baptisé, puis c'est pas le baptisé tout seul dans les fêtes. Là. Mm-hmm. C'est l'Église qui est le sacrement du salut. C'est le signe qui rend visible le salut. C'est l'Église. Et cette présence-là, ce qu'il propose, c'est de la pensée avec... Il n'est pas là pour réinventer le credo, la pensée à partir de toute la richesse de ce qu'il y a, mais il veut qu'on se donne la permission aussi de le penser à partir de l'art, de ce que ça a de différent de la révélation, mais de ce que ça peut éclairer aussi dans cette réflexion-là.
Je pense qu'on vit une crise de l'art aussi. On s'est éloigné beaucoup de la foi. Et finalement, on fait des créations et c'est un peu éclaté.
Ouais.
C'est un peu n'importe quoi.
On fait des gestes forts. Auto-référentiel, comme dirait le pape.
Oui.
L'art devient inintéressant.
Ou on tombe dans la clownerie, le juste pour rire. Faut que ça fasse rire. Puis quand ça rit, bon, on se dit une bonne communion. Pas sûr. Pas sûr. On se moque. C'est pas. Ça n'élève pas.
L'âme. C'est un peu ce que disait Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes. Tous les artistes, qu'ils soient croyants ou non, peuvent contribuer à élever l'âme.
C'est ce qu'il faut.
Bon, évidemment, les croyants ont peut-être une mission particulière là-dedans, mais c'est accessible à tous les artistes. Il y a du travail à faire, là, tout un chantier, évidemment. Merci infiniment. Merci à Thomas d'avoir lu Balthazar pour nous. Je rappelle que tu es prêtre dans la mission Belle Chasse et de Chemin sur la rive sud de Québec. À bientôt.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, allons-y avec une suggestion culturelle de notre chroniqueur de la semaine. Thomas, vas-y.
C'est sur YouTube, je me suis fait référer une série de cours de Fabrice Hadjadj qui, je pense, collabore à l'occasion.
C'est vrai, un de nos chroniqueurs dans le magazine Le Verbe.
Exact, ouais. Qui a fait une série sur la philosophie du théâtre. Ça s'appelle Theatrum Mundi. Cherchez ça sur YouTube, le théâtre du monde. C'est 3 cours de 1 heure, 1 heure et 20. Oui, il approfondit ces catégories-là. Moi, j'ai fait ça vite, là, mais lui, il va tellement plus loin. C'est vraiment riche. Et ça nous aide à réfléchir sur l'être humain, parce que c'est son point de vue à lui. C'est pas tant de la révélation dans son cas, mais c'est qu'est-ce que
c'est. C'est une anthropologie chrétienne.
Exactement. Et ça, c'est vraiment bon. C'est bon.
Vous connaissez le philosophe Hadjadj?
Oui, absolument. Puis j'ai vu ça aussi. Je trouve ça extraordinaire. Il est formidable, que c'est un homme, il vit dans la réalité, il a plusieurs enfants, puis, mais il est allumé, c'est un converti, il est extraordinaire. Très content qu'il se joigne au Verbe, c'est une grande acquisition.
On est très heureux aussi. Ouais.
Ah oui, c'est ça.
Donc ça s'appelle Theatrum Mundi, c'est introduction au théâtre, à la philosophie du théâtre, c'est par Fabrice Adjadj, je tapais ça sur votre... moteur de recherche. Moi, je vous propose un autre Fabrice. Tiens, Fabrice Lucchini, dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission. Il a fait une masterclass, une classe de maître, pour le dire en français, au Festival du film d'Angoulême, où il était devant public. Il parlait justement de la communion avec le public dans le cadre du théâtre, évidemment. C'est une conférence formidable qui dure une heure. On tape masterclass, là, c'est comme ça que ça s'appelle, du Festival du film d'Angoulême. Ça a été filmé en août dernier, 2023. Alors, je vous invite à écouter ça. C'est vraiment très intéressant. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir été là. Merci à M. l'abbé Gendreau de s'être déplacé dans nos studios. On était très heureux d'entendre votre témoignage. Et vous pouvez réécouter en tout temps cette émission en format balado ou vidéo sur Facebook, YouTube, etc. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Je remercie Barthélémy Rieux et Marianne Martin à la technique et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.